Le face à Duhamel avec ce soir l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Bonsoir.
Bonsoir Roselyne. Les garçons.
Bonsoir, bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. On en a entendu de belles à l'Assemblée nationale depuis le début de ce débat sur la réforme des retraites. Hier, on a entendu un député de la France insoumise traiter le ministre Dussopt d'assassin. Alors très franchement, tous les deux, quand vous écoutez les débats, quand vous écoutez les députés, est-ce que vous vous dites le niveau baisse, Alain ?
Oui, mais je ne dis pas tout est nouveau dans ça. Le niveau baisse, bon, bah, c'était assez consternant ce qu'on a vu, mais ce qui serait aberrant, ce serait plutôt si on ne votait pas finalement sur l'article 7, c'est-à-dire celui qui établit le nouvel âge de la retraite. Là, ça serait vraiment aberrant. Consternant, oui, c'est consternant. Est-ce que c'est complètement nouveau ? Bon, d'abord, Roselyne le sait très bien, à chaque fois qu'il y a une grande vague politique, électorale, par principe, il y a beaucoup de nouveaux venus. Les nouveaux venus, par principe, sont des débutants. Et par principe, les débutants sont moins bons que les expérimentés dans une assemblée. Alors, il y a ce facteur-là.
D'accord.
Bon, il y a un deuxième facteur qui est qu'on est dans une phase de radicalisation de la politique, avec d'un côté la NUPES et surtout les Insoumis, et de l'autre le Rassemblement National. Quand on est dans une phase de radicalisation, ceux qui sont élus, c'est-à-dire les nouveaux députés, sont en réalité plus des militants élus que des parlementaires de vocation. Et donc, ils n'ont pas le sens des limites, ils n'ont pas le sens des codes, ils n'ont le sens en réalité au départ de pas grand-chose. Bon, la troisième chose, qui est plus grave, sur la durée, je veux dire, c'est que tout est fait pour que les gens de bonne qualité ne se présentent pas. Les parlementaires ont des revenus, alors les Français détestent entendre ça, je le sais bien, mais ont des revenus qui ont diminué, si on les compare d'année en année, diminué considérablement avec la fin du cumul. Ils sont attaqués en justice pour un oui ou pour un non. Ils sont invectivés, injuriés, quelquefois même physiquement attaqués. Et ils ont globalement beaucoup moins de pouvoir qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Bon, c'est pas très attirant tout ça. Puis la dernière chose, c'est aussi que c'est de notre faute à nous. C'est-à-dire que comme, contrairement à ce qui se passait il y a 30 ans ou 40 ans, ils sont tout le temps sous le feu des projecteurs en permanence. Bah évidemment, dès qu'ils dérapent, bah toute la France le sait. Et dès qu'ils sont mauvais, tout le monde le voit.
Alors c'est vrai, et je rejoins l'analyse d'Alain à quelques détails près. La première chose, c'est qu'on a perdu les grands parlementaires qui organisaient en quelque sorte le débat autour d'eux et qui étaient en quelque sorte les bergers du troupeau. Je raconte souvent mon arrivée en 88, je suis en face de Chirac, de Balladur, de Jacques Chaban-Delmas, de Pasqua, de Seguin, de Juppé, de Toubon, de Michel Alliot-Marine, Michel Barzac. Évidemment, ces personnes m'ont appris la vie parlementaire.
Plusieurs de ceux-là sont très bons.
Comment ?
Pas tous.
Pas tous. Pas tous. Mais je veux dire, c'était des personnages tutélaires.
Ils avaient
des personnalités.
Oui, 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 oui.
Maintenant, les personnalités, par exemple, au groupe LR, elles sont dans leurs conseils régionaux, comme Laurent Wauquiez,
oui, oui, oui.
Comme Valérie Pécresse, etc.
Comme Xavier Bertrand.
Comme Xavier Bertrand et Carole Delga, aussi bien que Johanna Roland, reste présidente de la région Occitanie ou de la mairie de Nantes. Mais il y a aussi un phénomène tout à fait particulier, c'est que on a appelé ça de la bordélisation, elle vient quand même d'un seul côté et d'un seul groupe de l'Assemblée, c'est la France insoumise. Et là, je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est que ce n'est pas de l'infantilisme ou du manque d'expérience.
C'est une stratégie ?
Bien sûr, c'est une stratégie de la conflictualité. C'est une tradition post-marxiste qui a été idéologisée par un certain nombre de penseurs. On pense à Chantal Mouffe, on pense à Gramsci, on pense à Derrida, on pense à Foucault. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation possible. Soit on gagne, soit on perd. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Donc, le but, quand Madame Panot refuse de serrer la main
présidente du groupe,
président du groupe
LFI, je ne sais pas encore.
Mais vous savez, moi, j'avais...
Refusé de serrer la main de Jordan Bardella, par exemple.
Souvenir personnel, nous avions vu dans le Conseil régional des Pays de la Loire un conseiller trotskiste élu, qui était d'ailleurs un vague cousin de François Fillon. Olivier Guichard, tout arrive. Olivier Guichard me charge d'aller l'inviter à déjeuner. Le gars a commencé par me dire « Je ne serre pas la main d'un valet du Grand Capital » et après mon invitation à déjeuner, il a dit « Non, vous risqueriez de me contaminer. » Ça peut paraître... De la rigolade, mais pas du tout.
Il le pensait vraiment.
On est dans une stratégie de la conflictualité. Alors, ces gens, ces personnes-là ne sont, ne croient pas à la démocratie parlementaire.
Mais moi, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément que vous dites, la stratégie. Bon, elle existe, hein. Mais c'est une stratégie de la radicalisation en permanence. Hein. C'est l'idée de dire, mettons le feu, symboliquement, en tout cas pour l'instant. Mettons le feu à l'Assemblée nationale, ça gagnera peut-être les manifestations.
Oui.
Et ça, c'est une stratégie, c'est une volonté très dangereuse, bien entendu, très répréhensible, mais qui existe. Mais il y a aussi le fait que ceux qui sont élus, et ça s'entend notamment chez ceux qui dérapent, il n'y a pas que des nouveaux venus qui dérapent. Hein. On voit aussi quelques parlementaires chevronnés, notamment à droite ou au centre, qui dérapent également.
C'était pas à l'Assemblée, on a vu Jean-Luc Mélenchon déraper de nombreuses fois.
Mais là, on voit très bien ce qu'ils parlent comme des militants. Ils parlent comme des gens qui iraient devant un piquet de grève et qui les harangueraient. C'est ça qu'ils font. Et ça se voit très bien quand on les écoute.
Alors Mathilde Panot, elle ne dit pas ça. Hein. La présidente, elle l'a dit d'ailleurs aujourd'hui même à l'Assemblée, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, dit que la LFI, justement les Insoumis, font l'objet d'une stratégie de diabolisation et d'insultes. En fait, ce sont les Insoumis qui sont diabolisés.
Ah non, mais ça c'est une bonne vieille stratégie. C'est-à-dire qu'on reproche à l'adversaire et au concurrent exactement... ses fautes et ses péchés. Ça, vous n'allez pas apprendre à une vieille parlementaire que j'ai été et que je reste finalement dans mon cœur.
Justement, Rosine, j'en appelle à votre expérience, à tous les deux. On dit aussi que sous la 3e, la 4e et même la 5e, il y avait des noms d'oiseaux échangés, il y avait des insultes, il y avait même des duels.
Il faut aller au-delà. Bien sûr, si on en reste à ce qui est simplement des dérapages verbaux, qu'on se lançait, mais ensuite on se retrouvait à la buvette et on pouvait négocier sur un certain nombre de choses politiques. Il ne faut pas confondre l'écume de l'injure et des excès avec le sous-texte, le sous-texte de contestation de la démocratie parlementaire. Et c'est bien ça qui est à l'œuvre.
Oui, mais il y avait quand même... dans le passé, on l'a vu tous les deux, moi, depuis bien plus longtemps que vous, évidemment.
Oui, c'est ça.
Parlais de la Troisième République.
Il est toujours galant. Bon,
déjà, je suis né sous la Troisième République. Je crois que je suis le seul ici, quand même, à dire ça.
Oui.
Bon. Alors, on voyait des séances extraordinairement violentes, et je dirais encore pire que ce qu'on a vu là. Par exemple, je me rappelle, au moment de la loi Veil... sur l'avortement, la séance a été horrible.
On était sous la Troisième République. Là.
Non, mais sous la Troisième, je peux vous prendre des exemples.
Mais on prend toujours le même exemple.
Non, pas du tout. Quand il y a eu la loi sur le Pax, bah, je peux vous dire que
les débats, j'ai vécu de l'intérieur. Non,
c'était quelque chose.
Est-ce que le non-cumul des mandats a changé les choses ?
Bien sûr.
Oui, bien sûr. Ça a changé les choses doublement. D'abord, ça a diminué les revenus, sinon de moitié, du moins très largement. Et ensuite... le contact avec les électeurs, la connaissance, ben, au fond, la connaissance des Français. C'est pour ça que je fais la différence entre élus et militants. On a maintenant une partie des élus militants.
Qui n'ont aucune expérience d'élus.
Qui connaissent pas la France, je veux dire. Ceux que moi j'ai connus au moment où je pense qu'ils étaient les meilleurs, dans les années 80. Vous n'étiez pas né là non plus. Mais dans les années 80, quand il y avait... Chirac, Mitterrand, Giscard, Marché, etc. Alors il s'invectivait.
Oui, parce que ça Mitterrand était un parlementaire très dur, François.
Très dur, très dur.
C'est vraiment un opposant pur et dur.
Très dur. Mais j'ai le souvenir, par exemple, là c'était avant. J'ai le souvenir d'un grand débat entre Pompidou, Premier ministre, et Mitterrand, chef de l'opposition de gauche. Qui était d'un niveau.
Avait une autre gueule.
Stratosphérique par rapport à ce qu'on voit maintenant. Oui. Ça, c'est vrai. Et de ce point de vue, oui, il y a, au fond, qui a-t-il aujourd'hui comme grand orateur parlementaire ?
Rien, personne.
Il n'y en a plus.
Le dernier, c'était Mélenchon. Exactement.
Et même du côté du gouvernement, j'ai envie de dire.
Mais vous savez, la baisse du niveau dont on parle pour les députés, ça vaut également pour les gouvernements.
Mais je vais vous dire une chose, tout ça, c'est la faute de la télévision.
Pourquoi ?
Parce que maintenant, on nous dit, on fait une interview, 8 minutes, si on parle plus 15 secondes, on vous dit qu'on fait un tunnel, comment allez-vous résoudre le déficit de la sécurité sociale ? Vous avez 10 secondes. Il y avait des orateurs qui avaient appris à parler avec une culture générale, etc. Si vous faites ce genre de développement, les gars, là, les deux que vous êtes là en face, vous allez nous faire les gros yeux.
Ça va être de nos fautes.
Oui, exactement.
Et quand vous dites baisse de niveau, c'est baisse de niveau de culture générale, de culture politique. Oui. On accuse souvent les élèves, l'école française, de dire il y a une baisse de niveau générale. Est-ce que cette baisse de niveau, elle est là aussi ?
Vous avez raison de faire la distinction. Il y a une baisse de niveau qui est une baisse de niveau politique, de culture politique. C'est pas une baisse de niveau universitaire. Si vous prenez l'évolution de la composition des assemblées, ce que j'ai eu l'occasion de faire il n'y a pas très longtemps sur une longue période, vous vous apercevez que le niveau des diplômes est de plus en plus grand, ce qui est d'ailleurs logique, puisqu'en France, il y a de plus en plus de diplômés de l'enseignement supérieur dans la population. Donc c'est logique, il n'y a pas une baisse de niveau universitaire. Il y aurait même plutôt une tendance à la hausse. En revanche, il y a un niveau de culture politique qui devient absolument aberrant.
Il y a aussi une génération qui est biberonnée au SMS, aux réseaux sociaux. Oui. On dit plus je t'aime, on dit JT. Alors évidemment, tout ça, ça transparaît aussi. L'Assemblée, c'est un miroir déformant que se tend la société à elle-même.
On a aussi voulu des techniciens de la politique. On a voulu aussi des comptables, des gens pragmatiques. Donc on a des technos.
La génération d'avance.
Aujourd'hui, on n'a plus tellement de...
Si on veut un moment où vraiment c'était des technocrates de haut niveau...
Madame Borne...
Attendez mon exemple. Ouais. C'était le moment où vous aviez face à face Laurent Fabius, Michel Rocard, Alain Juppé. Alors ça, ils étaient tous inspecteurs des finances, etc., de très haut niveau, et c'était des gens...
Giscard monter à la tribune ministre des Finances sans une note pour présenter la loi de finances.
Ça, je l'ai vu. Il a cité plus de champs sans chiffres, et il y a un journal malin qui a vérifié, et il ne s'était pas trompé. Non, il y a eu des moments éblouissants. Et pour prendre un moment alors qui était vraiment éblouissant, aujourd'hui totalement inimaginable, c'est quand en 1962, le général de Gaulle a annoncé élection du président au suffrage universel. C'est la seule fois qu'il y a eu motion de censure qui est passée. Mais la séance d'explication de vote a été d'un niveau incroyable. Et en particulier, il y a eu un discours célèbre de Paul Reynaud, qui était un président du Conseil de la Troisième République, mais qui était non seulement
faramineux. Et dont le général avait été à des ministres.
Absolument. Non seulement faramineux, mais en plus qui annonçait toutes les déviations institutionnelles de la Ve République qui ont eu lieu, mais toutes.
Des visionnaires.
Ah oui, c'est exceptionnel.
Et peut-être parce que c'est plus à l'Assemblée que ça se passe. Vous l'avez dit vous-même, Rosine, aujourd'hui, les barons de la droite sont présidents de région, les futurs candidats à l'élection présidentielle à gauche sont aussi présidentes ou maires, donc ça se passe plus à l'Assemblée nationale.
Moi, je suis très inquiète sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que je crois qu'on a quitté la culture du compromis, on est revenu à la loi prairiale, il n'y a que deux solutions, soit on est acquitté, soit on est condamné à mort. Et ça, c'est véritablement une perte tout à fait importante, et je suis sûr qu'Alain centriste par définition et ontologiquement...
Réfléchi.
Voilà, centriste, parce que c'est...
Réfléchi, c'est mieux.
C'est antinomique d'être centriste et réfléchi. Partage cette idée qu'à un moment, on puisse arriver à une solution commune. Et ce que je trouve d'ailleurs inquiétant, c'est que ça contamine l'ensemble de la société. Ou est-ce que c'est la société qui contamine le Parlement ?
Les deux,
mais de voir, par exemple, Laurent Berger participer à cette nouvelle méthode, c'est tout ou rien, c'est extrêmement inquiétant.
Mot de la fin, là.
Non, mais d'un mot, s'il n'y a pas un vote sur l'article 7, c'est vraiment que l'ensemble des parlementaires prennent les Français pour des imbéciles.
Et ils ne servent à rien, parce que c'est
le nouvel âge de la retraite, c'est la clé de tout. S'ils s'arrangent de telle façon qu'ils n'aient pas à voter là-dessus, à quoi servent-ils ?
Eh bien, on posera la question dans un instant. Merci Rosine, merci Alain, à nos invités.